franceinter.fr.
Le vieillard de l'abri Cro-Magnon avait-il le visage boursouflé et recouvert de nodules ?
Oui, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro,
l'homme de Man,
l'homme de Nion,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Pompon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Voilà, merci à Fanny Boyon qui nous a dégoté les quatre barbus chantant l'homme de Cro-Magnon en 1955. Pour parler donc de l'abri Cro-Magnon, découvert lui en 1868 aux Ézides de Taillac en Dordogne, et qui a fourni donc cinq spécimens emblématiques aujourd'hui confirmés d'Homo sapiens. Et à l'occasion du 150e anniversaire de cette découverte, eh bien, l'étude d'un crâne masculin découvert sur le site fait l'objet d'une correspondance avec le journal The Lancet et nous permet d'entrevoir un visage étonnant, boursouflé par une maladie rare. Axel, on en discute avec celui qui est connu pour faire parler les morts célèbres.
Et oui Mathieu, nous sommes avec le médecin légiste Philippe Charlier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes connu pour vos cold cases historiques, après Henri IV, Robespierre et dernièrement Hitler. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce vieillard de Cro-Magnon ? Il y avait un mystère ?
Oui, il y avait un mystère. Ce qui était intéressant, c'était d'apporter un double regard à la fois anthropologique et médical, médico-légal, sur ces restes humains. C'est les restes de l'homme moderne les plus anciens retrouvés. En fait, d'ailleurs, cette année, les 150 ans de la découverte. Il y a quelque chose qui choque les chercheurs à chaque fois qu'on examine ce crâne, c'est cette grosse... Ce gros trou, on va dire, pour utiliser un langage du commun, c'est-à-dire pour nous une lésion au niveau du front qui fait 4 cm et dont on s'est demandé pendant des générations ce que c'était. Paul Broca, qui avait examiné ça au 19e siècle, pensait que c'était les gouttes d'eau qui étaient tombées périodiquement sur l'os, qui avaient fini par l'éroder. Pour être honnête, ça ne tient pas trop la route. Ensuite, il y a eu les hypothèses sur la tuberculose, la syphilis. Eh bien, on s'est dit, allez, on réouvre le dossier et maintenant, on va lui faire passer les mêmes examens que ceux qu'on peut faire passer à nos patients vivants.
Alors, quelles sont vos conclusions, docteur ?
Quel est le diagnostic ? Alors d'abord, le traitement, il n'y en a plus, vous avez bien compris. Pour le diagnostic, eh bien, on s'est rendu compte que c'était une maladie un peu bizarre, génétique, qui s'appelle la maladie de Recklinghausen, aussi appelée la neurofibromatose de type 1. Je vous explique très simplement, c'est une maladie génétique donc, qui provoque la formation de plein de petites tumeurs bénignes, qu'on appelle des neurofibromes, au niveau de la peau, mais également en profondeur. Et ces tumeurs vont éroder progressivement toutes les structures au contact, notamment l'os. Et c'est comme ça qu'il y avait un des plus gros neurofibromes de Cro-Magnon 1, qui était au niveau du front, qui a fini par lui éroder ceci. Ça, on le sait, et c'est le diagnostic qu'on propose avec pas mal de force, parce que l'aspect radiologique est vraiment très, très évocateur. On a aussi des lésions au niveau d'un des conduits auditifs internes, et ça, c'est une découverte de notre étude. Donc, il avait vraisemblablement des problèmes à type de vertige ou de troubles de l'équilibre et peut-être une diminution de l'audition, peut-être une surdité. Et puis aussi, il en avait d'autres un petit peu partout sur le visage. Donc, il était particulièrement atteint par cette maladie. Et puis, on a comparé ce patient avec des collection anatomique et pathologique de référence. Exactement ce qu'on fait à l'hôpital lors d'un staff hospitalier. Quand on a un patient vivant, on se dit ce qui ressemble à d'autres patients qu'on a traités ou autre chose. On applique les mêmes techniques pour le patient Cro-Magnon et pour des patients vivants comme ceux que je peux avoir à l'hôpital de Nanterre.
Et c'est cette neurofibromatose qui l'a tué ? On peut le dire comme ça ?
On n'en est absolument pas certain et vraisemblablement d'ailleurs non. On ne meurt pas particulièrement de cette maladie. Il a très bien pu mourir d'une maladie autre, une infection ou un traumatisme ou que sais-je encore.
Alors, deux petites questions. Quel âge il avait d'abord exactement, Philippe Charlier ?
C'était un homme. Alors, l'âge précis, on ne peut pas le déterminer. Ce sont des restes trop anciens, 28 000 ans avant Jésus-Christ à peu près. L'âge au décès, c'était aux alentours entre 30 et 50 ans. On ne peut pas être plus précis. En tout cas, ce n'est pas un vieillard. L'appellation vieillard, c'est parce qu'il avait perdu beaucoup de dents. Mais ce sont des pertes qui sont en grande partie post-mortem.
Ouais. Et quelle est la cause de ces tumeurs ? On le sait ou pas ?
Alors, il y a une part génétique importante. On aurait bien voulu doubler, d'ailleurs, cette étude par une confirmation génétique, retrouver une des mutations responsables de la maladie. Mm-hmm. Malheureusement, l'ADN qui a été extrait par mes collègues du Muséum National d'Histoire Naturelle, l'endroit où se trouve ce crâne, et dont un des chercheurs, d'ailleurs, de l'étude fait partie, l'ADN est trop fragmenté et on ne peut malheureusement pas travailler dessus pour avoir une trace de la mutation à l'origine de la maladie.
Il y a Thomas Bourgeron qui souhaite vous interpeller. Généticien, justement, donc ça l'intéresse.
Je découvre ces travaux passionnants. Et alors, peut-être qu'il était un peu autiste parce que le gène NF1, qui est responsable de neurofibromatose 1, est un facteur de risque à l'autisme.
Ah, tiens.
Les patients de neurofibromatose ont des risques plus élevés d'avoir des traits autistiques que la population générale.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que 28 000 ans avant notre ère, cet homme qui, et vous avez vu là, vous verrez peut-être la reconstitution du visage qui le montre, en effet déformé par la maladie.
On l'a mis sur le site de la Tête au Carré d'ailleurs.
Hein, c'est très gentil
à vous.
La
photo est présente.
Cet homme, en fait, n'a pas été exclu de la société, société des morts ni société des vivants. Il a continué à avoir une existence la plus normale possible. Et pourtant, il devait avoir, honnêtement, sur le plan clinique, des problèmes à type de vertige ou de surdité. Il n'a pas été exclu. C'est un magnifique symbole et signe de tolérance.
Il y a beaucoup d'autres os qui ont été trouvés dans cette grotte. Est-ce que vous trouvez aussi des traces de cette maladie sur des personnes qui sont liées à lui, peut-être même ses fils ou ses ancêtres?
Alors avec c'est vraiment une étude qui se fait en coopération entre mon université et le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Il va falloir qu'on examine de façon systématique avec les paléontologues tous les autres éléments de squelette et qu'on voit si en effet c'est une maladie qui était de type familial, ce qui peut exister, ou bien si c'était une maladie uniquement sporadique et isolée.
Thomas Bourgeron.
Non, c'est toujours agréable de voir que les hommes de Cro-Magnon, qui étaient peut-être autistes, étaient acceptés dans notre société, ce qu'on pourrait prendre des leçons, je pense, pour le présent.
Il était peut-être même sourd, d'ailleurs.
Vraisemblablement, vu l'importance des lésions au niveau du conduit auditif interne gauche, la tumeur devait bien appuyer. Bon, on sait que chez certains patients, il y a quand même une bonne tolérance clinique. La chose dont on est certain, c'est qu'il y avait une vraie, on appelle ça une dysmorphie faciale. C'est pas pour utiliser des mots compliqués, mais il avait des traits assez abîmés par la maladie.
Voilà. Alors, bah oui, mais décrivez-nous un peu, parce que vous faites aussi une reconstitution de son visage, très scientifiquement travaillée. Est-ce qu'on peut le décrire à l'antenne? Alors, c'est pas l'homme de Cro-Magnon, c'est cet homme de Cro-Magnon.
Voilà, c'est l'homme à l'origine de l'espèce de Cro-Magnon, le premier homme de Cro-Magnon découvert. La reconstitution a été faite par Philippe Freuch dans notre équipe. Et en fait, on a un visage avec un gros nodule, un peu rouge, la peau un peu tendue, au niveau du front droit, qui fait à peu près 4-5 cm de grand axe. Et puis, de nombreux nodules qui sont centimétriques, répartis au niveau des arcades sourcilières à gauche et à droite, sur les ailes gauche et droite du nez, au niveau du maxillaire et de la mandibule. Donc vraiment des lésions qui sont diffuses, comme on peut en croiser dans les services spécialisés, hospitaliers ou chez un médecin. Il y a pas mal de patients qui sont porteurs de cette maladie avec un spectre clinique qui est très variable. Ça peut être quelques nodules, ça peut être uniquement des plaques de couleur, donc des taches pigmentées au niveau de la peau, sans avoir beaucoup de nodules. Et puis, il y en a qui ont des formes quasiment historiques, sans faire de jeu de mots. Et je pense malheureusement que l'homme de Cro-Magnon 1 faisait partie de ces formes historiques.
À part les traces qui correspondent à la maladie, comment est-ce que vous faites pour redessiner les traits, le visage de Cro-Magnon?
Alors ça, c'est vraiment une technique qui est issue de l'anthropologie médico-légale. C'est pas du tout un travail artistique comme pourrait le faire, par exemple, Elisabeth Deynès, qui présente ses travaux à l'exposition
Néandertal. Ça fait beaucoup penser à son travail.
Alors, son travail est exceptionnel. C'est vraiment une grande artiste. C'est un travail qui est artistique et scientifique. Nous, on est purement scientifique, en l'occurrence. Il s'agit pas de faire du beau ou autre. On fait du vrai, du réaliste surtout. Il s'agit de superposer des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles, de tissus adipeux à la surface du crâne.
Allez, Axel, une dernière question.
Oui, il y avait aussi un crâne de femme. Est-ce que vous allez peut-être par la suite faire ce même travail sur son crâne à elle?
Eh bien, on se retrouve dans un an et on en parle.
Voilà.
Bon, ben, on prend rendez-vous, on ouvre nos agendas et on vous accueillera avec plaisir, Philippe Charrier, donc autour aujourd'hui de ce Cro-Magnon 1 dont la photo se trouve sur le site de la Tête au Carré. On vous voit sur France 5 dans Science Grand Format bientôt avec Néron, hein, c'est ça?
Oui, et une autopsie psychologique cette fois-ci, parce que manque de chance, nous n'avons pas les restes de Néron, mais une autopsie psychologique, oui, à partir de ses faits et gestes, accompagnée d'archéologues et d'historiens.
Merci beaucoup, Philippe Charrier, on en reparlera. Merci Axel et à lundi.
À lundi.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, après Cro-Magnon, voici des outils pour Néandertal. Deux outils en bois, dont une branche d'if vieille de 90 000 ans qui viennent d'être découverts sur le site néandertalien d'Arambalza au Pays Basque espagnol. Le plus intéressant, un bâton à fouir de 15 cm, très bien conservé, était utilisé pour creuser la terre en quête de nourriture ou pour des travaux d'aménagement. Matière organique, les outils en bois se dégradent habituellement très facilement et les découvertes antérieures à 40 000 ans sont très rares. Ces deux objets, donc vieux de 90 000 ans, vont permettre de mieux connaître la fonction de l'outillage dans les groupes humains du paléolithique moyen. C'est l'histoire d'une galaxie sans matière noire, l'observation donc d'une galaxie lointaine de 65 millions d'années-lumière qui vient ébranler les idées standards sur leur formation. C'est le télescope spatial Hubble qui a permis d'approcher cette galaxie qui contiendrait 400 fois moins de matière noire que les galaxies classiques. C'est en suivant les mouvements de 10 groupes d'étoiles qui la composent que l'équipe d'astronomes de l'université d'Yale a déduit que la matière noire était très faible. Selon eux, cette découverte ne remet pas en question l'existence de la matière noire en elle-même, mais permet d'imaginer de nouveaux scénarios sur la formation des galaxies. Et puis le Sahara qui a grandi de 10% depuis 1920 et les changements climatiques n'y sont pas pour rien. C'est en analysant les frontières de cette masse sableuse et les données des intempéries entre 1920 et 2013 que l'équipe de scientifiques du Maryland a observé cette tendance à l'expansion. L'accentuation de la force de certains vents comme les alizés et les modifications des cycles climatiques participent de cet agrandissement. Les résultats de cette étude permettent d'indiquer les futures tendances d'autres déserts à travers le monde. Et cette expansion saharienne a pour immédiate conséquence de bousculer les fragiles écosystèmes et sociétés humaines du Sahel, ce qui n'annonce rien de bon.